que de bonheur possible, dont on sacrifie ainsi la réalisation à l'impatience d'un plaisir immédiat.
Oui, je suis jaloux comme un pou. Est-ce qu'au fait un pou c'est jaloux pour une question? C'est une question, mais ce n'est pas la vraie question. Je te veux pour moi tout seul. C'est pas joli d'oser dire ça. C'est pas bien de faire la gueule à ce pauvre Armand qui te fait du plat. Je suis jaloux, jaloux. Oui, je suis jaloux comme un pou. Est-ce qu'au fait un pouce est jaloux pour une question? C'est une question, mais ce n'est pas la vraie question. Je blémis quand devant Pierre, cet écrit paillon sans talent. Tu frétilles des paupières, tout comme s'il était Monterland. Je suis jaloux, jaloux. Oui, je suis jaloux comme un pou. Est-ce qu'au fait un pouce est jaloux pour une question? C'est une question, mais ce n'est pas la vraie question. Quand tu danses le tango, flottis bien chaud de contre Paul. J'attrape un lumbago, j'ai les vertèbres qui s'affolent. Je suis jaloux, jaloux. Oui, je suis jaloux comme un pou. Est-ce qu'au fait un pouce est jaloux pour une question? C'est une question, mais ce n'est pas la vraie question. Quant aux ma sœur qui naît, qui met ta peau tout en émoi, je voudrais l'assassiner. Seigneur Jésus, retenez-moi. Je suis jaloux, jaloux. Oui, je suis jaloux comme un pou. Est-ce qu'au fait un pouce est jaloux pour une question? C'est une question, mais ce n'est pas la vraie question. Histoire de fuir ma peine, et c'est pas seulement pour la rime. Ce soir j'invite Marlène, la soirée sera très intime. Tu seras jalouse, jalouse, tu m'attendras, tu auras le blues. Est-ce qu'au fait tu seras jalouse? C'est une question capitale, je dirais même la principale. Allô? Ah, c'est vous Marlène? J'ai changé d'avis, je ne sortirai pas ce soir, je suis fatigué. Excusez-moi Marlène, excusez-moi. Je suis jaloux, jaloux, mais plus fidèle que jaloux. Je suis jaloux, fidèle, fidèle à toi, fidèle à nous.
Bonjour. Nous vous proposons ce jour une nouvelle émission de la série que nous consacrons à Marcel Proust. Le thème de cette émission est « Mensonges et jalousie ». Il y a beaucoup de thèmes récurrents dans « À la recherche du temps perdu » et parmi ceux-ci, un auquel Marcel Proust revient souvent comme déterminant largement la vie amoureuse du narrateur et de celle de son personnage, Svan. Mais sur ce thème comme sur d'autres, on est fondé à penser que Proust vise et atteint à l'universel des passions et des sentiments humains. Nous vous invitons donc une heure durant à suivre ces déambulations où l'amour est indissociable de la jalousie. Comme pour toutes les autres émissions de cette série, un partenaire, comédien et chanteur de talent, passionné lui aussi par cette aventure radiophonique qu'il a fait sienne et sur qui va reposer cette réalisation, est André Bonhomme, que je remercie chaleureusement. Les illustrations musicales qui viendront ponctuer les récits seront, pour cette émission, des chansons d'André Bonhomme, interprétées bien sûr par lui-même et ses musiciens, chansons sur ce thème qu'il a lui aussi traité avec passion et clairvoyance. Vous entendrez aussi quelques courts intermèdes musicaux. Il s'agira d'extraits d'une pièce de et interprétée par Alan Silva, Danse pour le 21e siècle. Bonne écoute.
D'autres fois, il lui disait que ce qui plus que tout ferait qu'il cesserait de l'aimer, c'est qu'elle ne voulut pas renoncer à mentir. Même du simple point de vue de la coquetterie, lui disait-il, ne comprends-tu pas combien tu perds de ta séduction en t'abaissant à mentir? Par un aveu, combien de fautes tu pourrais racheter? Vraiment, tu es bien moins intelligente que je ne croyais. Mais c'est en vain que Swann lui exposait ainsi toutes les raisons qu'elle avait de ne pas mentir. Elles auraient pu ruiner chez Odette un système général du mensonge, mais Odette n'en possédait pas. Elle se contentait seulement, dans chaque cas où elle voulait que Swann ignorât quelque chose qu'elle avait fait, de ne pas le lui dire. Ainsi, le mensonge était pour elle un expédient d'ordre particulier. Et ce qui seul pouvait décider si elle devait s'en servir ou avouer la vérité, c'était une raison d'ordre particulier aussi. La chance, plus ou moins grande, qu'il y avait pour que Swann pût découvrir qu'elle n'avait pas dit la vérité. Quelquefois, quand elle avait fait un court déplacement, ce n'est qu'après plusieurs jours qu'elle songeait à lui faire savoir qu'elle était revenue à Paris. Et elle lui disait tout simplement, sans plus prendre comme autrefois la précaution de se couvrir à tout hasard d'un petit morceau emprunté à la vérité, qu'elle venait d'y rentrer à l'instant même par le train du matin. Ces paroles étaient mensongères. Du moins pour Odette, elles étaient mensongères, inconsistantes, n'ayant pas, comme si elles avaient été vraies, un point d'appui dans le souvenir de son arrivée à la gare. Même, elle était empêchée de se les représenter au moment où elle les prononçait, par l'image contradictoire de ce qu'elle avait fait de tout différent au moment où elle prétendait être descendue du train. Mais dans l'esprit de Swann, au contraire, ces paroles qui ne rencontraient aucun obstacle venaient s'incruster et prendre l'inamovibilité d'une vérité si indubitable que si un ami lui disait être venu par ce train et ne pas avoir vu Odette, il était persuadé que c'était l'ami qui se trompait de jour ou d'heure, puisque son dire ne se conciliait pas avec les paroles d'Odette. Celles-ci ne lui eussent paru mensongères que s'il s'était d'abord défié qu'elles le fussent, pour qu'il crût qu'elle mentait. Un soupçon préalable était une condition nécessaire. C'était d'ailleurs aussi une condition suffisante. Alors tout ce que disait Odette lui paraissait suspect. L'entendait-il citer un nom? C'était certainement celui d'un de ses amants. Une fois cette supposition forgée, il passait des semaines à se désoler. Il s'aboucha même une fois avec une agence de renseignement pour savoir l'adresse, l'emploi du temps de l'inconnu, qui ne le laisserait respirer que quand il serait parti en voyage, et dont il finit par apprendre que c'était un oncle d'Odette mort depuis 20 ans. Bien qu'elle ne lui permît pas en général de la rejoindre dans des lieux publics, disant que cela ferait jaser, il arrivait que dans une soirée où il était invité comme elle, chez Forcheville, chez le peintre ou à un bal de charité dans un ministère, il se trouva en même temps qu'elle. Il la voyait, mais n'osait pas rester, de peur de l'irriter en ayant l'air d'épier les plaisirs qu'elle prenait avec d'autres et qui, tandis qu'il rentrait solitaire, qu'il allait se coucher anxieux, comme je devais l'être moi-même quelques années plus tard, les soirs où il viendrait dîner à la maison à Combray, lui semblait illimité parce qu'il n'en avait pas vu la fin. Et une fois ou deux, il connut par de tels soirs de ses joies qu'on serait tenté, si elle ne subissait avec tant de violence le choc en retour de l'inquiétude brusquement arrêtée, d'appeler des joies calmes, parce qu'elles consistent en un apaisement. Il était allé passer un instant à un raout chez le peintre et s'apprêtait à le quitter. Il y laissait Odette muée en une brillante étrangère, au milieu d'hommes à qui ses regards et sa gaieté, qui n'étaient pas pour lui, semblaient parler de quelque volupté qui serait goûtée là ou ailleurs. Peut-être au bal des incohérents, où il tremblait qu'elle n'allât ensuite, et causait à Swann plus de jalousie que l'union charnelle même, parce qu'il l'imaginait plus difficilement. Il était déjà prêt à passer la porte de l'atelier quand il s'entendait rappeler par ces mots. Qui, en retranchant de la fête, cette fin qui l'épouvantait, la lui rendait rétrospectivement innocente, faisait du retour d'Odette une chose non plus inconcevable et terrible, mais douce et connue, et qui tiendrait à côté de lui, pareil à un peu de sa vie de tous les jours, dans sa voiture, et dépouillait Odette elle-même de son apparence trop brillante et gaie, montrait que ce n'était qu'un déguisement qu'elle avait revêtu un moment pour lui-même, non en vue de mystérieux plaisirs, et duquel elle était déjà lasse. Par ces mots qu'Odette lui jetait, comme il était déjà sur le seuil. « Vous ne voudriez pas m'attendre 5 minutes? Je vais partir. Nous reviendrions ensemble. Vous me ramèneriez chez moi. » Bien que Swann n'eût encore jamais pris bien sérieusement ombrage de l'amitié d'Odette pour tel ou tel fidèle, il éprouvait une douceur profonde à l'entendre avouer ainsi devant tous, avec cette tranquille impudeur, leur rendez-vous quotidien du soir, la situation privilégiée qu'il avait chez elle et la préférence pour lui qui y était impliquée. Certes, Swann avait souvent pensé qu'Odette n'était à aucun degré une femme remarquable, et la suprématie qu'il exerçait sur un être qui lui était si inférieur n'avait rien qui dût lui paraître si flatteur à voir proclamé à la face des fidèles. Mais depuis qu'il s'était aperçu qu'à beaucoup d'hommes, le charme qu'avait pour eux son corps avait éveillé en lui un besoin douloureux de la maîtriser entièrement dans les moindres parties de son cœur. Et il avait commencé d'attacher un prix inestimable à ses moments passés chez elle le soir, où il l'asseyait sur ses genoux, lui faisait dire ce qu'elle pensait d'une chose, d'une autre, où il recensait les seuls biens à la possession desquels il tint maintenant sur terre. Aussi, après ce dîner, la prenant à part, il ne manqua pas de la remercier avec effusion, cherchant à lui enseigner selon les degrés de la reconnaissance qu'il lui témoignait l'échelle des plaisirs qu'elle pouvait lui causer, et dont le suprême était de le garantir, pendant le temps que son amour durerait, elle y rendrait vulnérable des atteintes de la jalousie. Quand il sortit le lendemain du banquet, il pleuvait à verse. Il n'avait à sa disposition que sa Victoria. Un ami lui proposa de le reconduire chez lui en coupé, et comme Odette, par le fait qu'elle lui avait demandé de venir, lui avait donné la certitude qu'elle n'attendait personne, c'est l'esprit tranquille et le cœur content que, plutôt que de partir ainsi dans la pluie, il serait rentré chez lui se coucher. Mais peut-être, si elle voyait qu'il n'avait pas l'air de tenir à passer toujours avec elle sans aucune exception la fin de la soirée, négligerait-elle de la lui réserver justement une fois où il l'aurait particulièrement désirée? Il arriva chez elle après 11 heures, et comme il s'excusait de n'avoir pu venir plus tôt, elle se plaignit que ce fût en effet bien tard. L'orage l'avait rendue souffrante. Elle se sentait mal à la tête. Elle le prévint qu'elle ne le garderait pas plus d'une demi-heure, qu'à minuit, elle le renverrait. Et peu après, elle se sentit fatiguée et désira s'endormir. « Alors, pas de Cattleya ce soir, lui dit-il. Moi qui espérais un bon petit Cattleya. » Et d'un air un peu boudeur et nerveux, elle lui répondit: « Mais non, mon petit, pas de Cattleya ce soir. Tu vois bien que je suis souffrante. » « Cela t'aurait peut-être fait du bien, mais enfin, je n'insiste pas. » Elle le pria d'éteindre la lumière avant de s'en aller. Il referma lui-même les rideaux du lit et partit. Mais quand il fut rentré chez lui, l'idée lui vint brusquement que peut-être Odette attendait quelqu'un ce soir, qu'elle avait seulement simulé la fatigue et qu'elle ne lui avait demandé d'éteindre que pour qu'il crût qu'elle allait s'endormir, qu'aussitôt qu'il avait été parti, elle avait rallumé et fait entrer celui qui devait passer la nuit auprès d'elle. Il regarda l'heure. Il y avait à peu près 1 heure et demie qu'il l'avait quittée. Il ressortit, prit un fiacre et se fit arrêter tout près de chez elle, dans une petite rue perpendiculaire à celle sur laquelle donnait, derrière, son hôtel, et où il allait quelquefois frapper à la fenêtre de sa chambre à coucher pour qu'elle vînt lui ouvrir. Il descendit de voiture, tout était désert et noir dans ce quartier. Il n'eut que quelques pas à faire, à pied, et déboucha presque devant chez elle. Parmi l'obscurité de toutes les fenêtres éteintes depuis longtemps dans la rue, il en vit une seule d'où débordait entre les volets qui empressaient la pulpe mystérieuse et dorée, la lumière qui remplissait la chambre et qui, tant d'autres soirs du plus loin qu'il l'apercevait en arrivant dans la rue, le réjouissait et lui annonçait « Elle est là qui t'attend !» et qui maintenant le torturait en lui disant « Elle est là avec celui qu'elle attendait !» Il voulait savoir qui. Il se glissa le long du mur jusqu'à la fenêtre. Mais entre les lames obliques des volets, il ne pouvait rien voir. Il entendait seulement dans le silence de la nuit le murmure d'une conversation. Certes, il souffrait de voir cette lumière dans l'atmosphère d'or de laquelle se mouvait derrière le châssis le couple invisible et détesté. D'entendre ce murmure qui révélait la présence de celui qui était venu après son départ, la fausseté d'Odette, le bonheur qu'elle était en train de goûter avec lui. Et pourtant, il était content d'être venu. Le tourment qu'il avait forcé de sortir de chez lui avait perdu de son acuité en perdant de son vague. Maintenant que l'autre vie d'Odette, dont il avait eu à ce moment-là le brusque et impuissant soupçon, il la tenait là, éclairée en plein dans la lampe, prisonnière, sans le savoir de cette chambre où, quand il le voudrait, il entrerait, la surprendre et la capturer. Ou plutôt, il allait frapper au volet, comme il faisait souvent quand il venait très tard. Ainsi au moins Odette apprendrait qu'il avait su, qu'il avait vu la lumière et entendu la causerie, et lui qui, tout à l'heure, cela représentait comme se riant avec l'autre de ses illusions. Maintenant, c'était eux qu'il voyait, confiant dans leur erreur, trompés en somme par lui, qu'il croyait bien loin d'ici et qui, lui, savait déjà qu'il allait frapper au volet. Et peut-être, ce qu'il ressentait en ce moment de presque agréable, c'était autre chose que l'apaisement d'un doute ou d'une douleur, un plaisir de l'intelligence. Sur le point de frapper contre les volets, il eut un moment de honte en pensant qu'Odette allait savoir qu'il avait eu des soupçons, qu'il était revenu, qu'il s'était posté dans la rue. Elle lui avait dit souvent l'horreur qu'elle avait des jaloux, des amants qui espionnent. Ce qu'il allait faire était bien maladroit, et elle allait le détester désormais. Tandis qu'en ce moment encore, tant qu'il n'avait pas frappé, peut-être, même en le trompant, l'aimait-elle. Que de bonheur possible, dont on sacrifie ainsi la réalisation à l'impatience d'un plaisir immédiat. Mais le désir de connaître la vérité était plus fort et lui sembla plus noble. Il savait que la réalité de circonstances qui lui donnait sa vie pour restituer exactement était lisible derrière cette fenêtre striée de lumière, comme sous la couverture enluminée d'or d'un de ses manuscrits précieux à la richesse artistique, elle-même desquels le savant qui les consulte ne peut rester indifférent. Il éprouvait une volupté à connaître la vérité qui le passionnait dans cet exemplaire unique, éphémère et précieux, d'une matière translucide, si chaude et si belle. Et puis, l'avantage qu'il se sentait, qu'il avait tant besoin de sentir sur eux, était peut-être moins de savoir que de pouvoir leur montrer qu'il savait. Il se haussa sur la pointe des pieds. Il frappa. On n'avait pas entendu. Il frappa plus fort. La conversation s'arrêta. Une voix d'homme dont il chercha à distinguer auquel de ceux des amis d'Odette qu'il connaissait elle pouvait appartenir demanda « Qui est là ?» Il n'était pas sûr de la reconnaître. Il frappa encore une fois. On ouvrit la fenêtre, puis les volets. Maintenant, il n'y avait plus moyen de reculer. Et puisqu'elle allait tout savoir, pour ne pas avoir l'air trop malheureux, trop jaloux et curieux, Il se contenta de crier d'un air négligent et gai. « Ne vous dérangez pas, je passais par là, j'ai vu de la lumière. J'ai voulu savoir si vous n'étiez plus souffrante. » Il regarda. Devant lui, deux vieux messieurs étaient à la fenêtre, l'un tenant une lampe, et alors il vit la chambre. Une chambre inconnue. Ayant l'habitude, quand il venait chez Odette très tard, de reconnaître sa fenêtre, à ce que c'était la seule éclairée entre les fenêtres toutes pareilles, il s'était trompé et avait frappé à la fenêtre suivante qui appartenait à la maison voisine. Il s'éloigna en s'excusant et rentra chez lui, heureux que la satisfaction de sa curiosité eût laissé leur amour intact et qu'après avoir simulé depuis si longtemps vis-à-vis d'Odette une sorte d'indifférence, il ne lui eût pas donné par sa jalousie cette preuve qu'il aimait trop. Qui, entre deux amants, dispense à tout jamais d'aimer assez celui qui la reçoit?
Mon amour, j'aurais le cœur brûlé si un jour tu te laisses aller dans la beauté d'un autre. Vaines seront les pas d'un autre. Mon amour, j'aurais le cœur brûlé, quel qu'il soit roi, qu'il soit poète, artiste, général ou dentiste, qu'il soit drôle ou sérieux, d'un coup je me sentirais si vieux. Est-ce normal, est-ce anormal, dites-moi docteur, d'avoir mal, d'aimer dans la souffrance, d'être ainsi brisé par l'absence? Est-ce normal, est-ce anormal? Mon amour, j'aurais le cœur brûlé si un jour tu te laisses aller dans la beauté d'un autre. Vaines seront les pas d'un autre. Mon amour, j'aurais le cœur brûlé, corps en larmes, nu sans armes, jusqu'à ce que tu rentres, j'arpenterai mon antre quand tu te pâmeras dans la tendresse d'autres bras. Est-ce normal, est-ce anormal, dites-moi docteur, d'avoir mal, d'aimer dans la souffrance, d'être ainsi brisé par l'absence? Est-ce normal, est-ce anormal? Mon amour, j'aurai le cœur brûlé si un jour tu te laisses aller dans la beauté d'un autre. Vaines seront les pas d'un autre. Mon amour, j'aurai le cœur brûlé, sentinelle et rebelle, murée dans ma guérite, je rêverai de fuite, je maudirai l'amour, mais n'attendrai que ton retour. Est-ce normal, est-ce anormal, dites-moi docteur, d'avoir mal, d'aimer dans la souffrance, d'être ainsi brisé par l'absence? Est-ce normal, est-ce anormal? Mon amour, j'aurai le cœur brûlé si un jour tu te laisses aller dans la beauté d'un autre. Vaines seront les pas d'un autre. Mon amour, j'aurai le cœur brûlé.
Un jour que Swann était sorti au milieu de l'après-midi pour faire une visite, n'ayant pas trouvé la personne qu'il voulait rencontrer, il eut l'idée d'entrer chez Odette à cette heure où il n'allait jamais chez elle, mais où il savait qu'elle était toujours à la maison à faire sa sieste ou à écrire des lettres avant l'heure du thé, et où il aurait plaisir à la voir un peu sans la déranger. Le concierge lui dit qu'il croyait qu'elle était là. Il sonna, crut entendre du bruit, entendre marcher, mais on n'ouvrit pas. Anxieux, irrité, il alla dans la petite rue où donnait l'autre face de l'hôtel, se mit devant la fenêtre de la chambre d'Odette. Les rideaux l'empêchaient de rien voir. Il frappa avec force au carreau, appela. Personne n'ouvrit. Et elle vit que des voisins le regardaient. Il partit, pensant qu'après tout, il s'était peut-être trompé en croyant entendre des pas. Mais il en resta si préoccupé qu'il ne pouvait penser à autre chose. Une heure après, il revint. Il la trouva. Elle lui dit qu'elle était chez elle tantôt, quand il avait sonné, mais dormait. La sonnette l'avait éveillée, elle avait deviné que c'était Swann. Elle avait couru après lui, mais il était déjà parti. Elle avait bien entendu frapper au carreau. Swann reconnut tout de suite dans ce dire un de ces fragments d'un fait exact que les menteurs pris de court se consolent de faire entrer dans la composition du fait faux qu'ils inventent, croyant y faire sa part et y dérober sa ressemblance à la vérité. Certes, quand Odette venait de faire quelque chose qu'elle ne voulait pas révéler, elle le cachait bien au fond d'elle-même. Mais dès qu'elle se trouvait en présence de celui à qui elle voulait mentir, un trouble la prenait, toutes ses idées s'effondraient, ses facultés d'invention et de raisonnement étaient paralysées. Elle ne trouvait plus dans sa tête que le vide. Il fallait pourtant dire quelque chose. Il rencontrait à sa portée précisément la chose qu'elle avait voulu dissimuler et qui, étant vrai, était seule restée là. Elle en détachait un petit morceau, sans importance par lui-même, se disant qu'après tout, c'était mieux ainsi, puisque c'était un détail vérifiable qui n'offrait pas les mêmes dangers qu'un détail faux. Ça, du moins, c'est vrai, se disait-elle. C'est toujours autant de gagner. Il peut s'informer. Il reconnaîtra que c'est vrai. Ce n'est toujours pas ça qui me trahira. Elle se trompait. C'était cela qui la trahissait. Elle ne se rendait pas compte que ce détail vrai avait des angles qui ne pouvaient s'emboîter que dans les détails contigus du fait vrai dont elle l'avait arbitrairement détaché et qui, quels que fussent les détails inventés entre lesquels elle le placerait, révéleraient toujours par la matière excédente et les vides non remplis que ce n'était pas d'entre ceux-là qu'il venait. Elle avoue qu'elle m'avait entendu sonner puis frapper et qu'elle avait cru que c'était moi. Qu'elle avait envie de me voir, se disait Swann. Mais cela ne s'arrange pas avec le fait qu'elle n'ait pas fait ouvrir. Mais il ne lui fit pas remarquer cette contradiction, car il pensait que, livrée à elle-même, Odette produirait peut-être quelques mensonges qui seraient un faible indice de la vérité. Elle parlait. Il ne l'interrompait pas. Il recueillait, avec une piété avide et douloureuse, ces mots qu'elle lui disait et qu'il sentait, justement parce qu'elle la cachait derrière eux tout en lui parlant, gardée vaguement, comme le voile sacré, l'empreinte, dessiner l'incertain modelé de cette réalité infiniment précieuse et, hélas, introuvable. Ce qu'elle faisait tantôt à 3 heures quand il était venu, de laquelle il ne posséderait jamais que ses mensonges, illisibles et divins vestiges, et qui n'existait plus que dans le souvenir receleur de cet être qui la contemplait sans savoir l'apprécier, mais ne la lui livrerait jamais. Certes, ils se doutaient bien par moments qu'en elles-mêmes les actions quotidiennes d'Odette n'étaient pas passionnément intéressantes et que les relations qu'elle pouvait avoir avec d'autres hommes n'exhalaient pas naturellement d'une façon universelle et pour tout être pensant une tristesse morbide capable de donner la fièvre du suicide. Il se rendait compte alors que cet intérêt, cette tristesse, n'existait qu'en lui, comme une maladie, et que quand celle-ci serait guérie, les actes d'Odette, les baisers qu'elle aurait pu donner, redeviendraient inoffensifs, comme ceux de tant d'autres femmes. Mais que la curiosité douloureuse que Swann y portait maintenant n'eut sa cause qu'en lui, n'était pas pour lui faire trouver déraisonnable de considérer cette curiosité comme importante et de mettre tout en œuvre pour lui donner satisfaction. Quand il voulut dire adieu à Odette pour rentrer, elle lui demanda de rester encore et le retint même vivement en lui prenant le bras au moment où il allait ouvrir la porte pour sortir. Mais il n'y prit pas garde, car dans la multitude des gestes, des propos, des petits incidents qui remplissent une conversation, il est inévitable que nous passions, sans y rien remarquer qui éveille notre attention, près de ceux qui cachent une vérité que nos soupçons cherchent au hasard, et que nous nous arrêtions au contraire à ceux sous lesquels il n'y a rien. Elle lui redisait tout le temps « Quel malheur que toi qui ne viens jamais l'après-midi, pour une fois que cela t'arrive, je ne t'ai pas vu. » Il savait bien qu'elle n'était pas assez amoureuse de lui pour avoir un regret si vif d'avoir manqué sa visite. Mais comme elle était bonne, désireuse de lui faire plaisir, et souvent triste quand elle l'avait contrarié, il trouva tout naturel qu'elle le fût cette fois de l'avoir privée de ce plaisir de passer une heure ensemble qui était très grand, non pour elle, mais pour lui. C'était pourtant une chose assez peu importante pour que l'air douloureux qu'elle continuait d'avoir fini par l'étonner. Elle rappelait ainsi plus encore qu'il ne le trouvait d'habitude les figures de femmes du peintre de la Primavera. Elle avait en ce moment leur visage abattu et navré, qui semble succomber sous le poids d'une douleur trop lourde pour elle. Simplement, quand elle laisse l'enfant Jésus jouer avec une grenade ou regarde Moïse verser de l'eau dans une auge. Il y avait déjà vu une fois une telle tristesse, mais ne savait plus quand. Et tout d'un coup, il se rappela. C'était quand Odette avait menti en parlant à Madame Verdurin, le lendemain de ce dîner où elle n'était pas venue sous prétexte qu'elle était malade, et en réalité pour rester avec Swann. Certes, eût-elle été la plus scrupuleuse des femmes, qu'elle n'aurait pu avoir de remords d'un mensonge aussi innocent. Mais ce que faisaient couramment Odette les témoins, et servaient à empêcher des découvertes qui auraient pu lui créer, avec les uns ou avec les autres, de terribles difficultés. Aussi quand elle mentait, prise de peur, se sentant peu armée pour se défendre, incertaine du succès, elle avait envie de pleurer par fatigue, comme certains enfants qui n'ont pas dormi. Puis elle savait que son mensonge lésait d'ordinaire gravement l'homme à qui elle le faisait et à la merci duquel elle allait peut-être tomber si elle mentait mal. Alors elle se sentait à la fois humble et coupable devant lui. et quand elle avait affaire à un mensonge insignifiant et mondain, par association de sensations et de souvenirs, elle éprouvait le malaise d'un surmenage et le regret d'une méchanceté. Quel mensonge déprimant était-elle en train de faire à Swann pour qu'elle eût ce regard douloureux, cette voix plaintive, qui semblait fléchir sous l'effort qu'elle s'imposait et demander grâce. Il eut l'idée que ce n'était pas seulement la vérité sur l'incident de l'après-midi qu'elle s'efforçait de lui cacher, mais quelque chose de plus actuel, peut-être de non encore survenu et de tout prochain, et qui pourrait l'éclairer sur cette vérité. À ce moment, il entendit un coup de sonnette. Odette ne cessa plus de parler, mais ses paroles n'étaient plus qu'un gémissement. Son regret de ne pas avoir vu Swann dans l'après-midi, de ne pas lui avoir ouvert, était devenu un véritable désespoir. On entendit la porte d'entrée se refermer et le bruit d'une voiture, comme s'y repartait une personne, celle probablement que Swann ne devait pas rencontrer, à qui on avait dit qu'Odette était sortie. Alors en songeant que rien qu'en venant à une heure où il n'en avait pas l'habitude, il s'était trouvé dérangé tant de choses qu'elle ne voulait pas qu'il sût, il éprouva un sentiment de découragement, presque de détresse. Mais comme il aimait Odette, comme il avait l'habitude de tourner vers elle toutes ses pensées, la pitié qu'il eût pu s'inspirer à lui-même, ce fut pour elle qu'il la ressentit. Et il murmura « Pauvre chérie !» Quand il la quitta, elle prit plusieurs lettres qu'elle avait sur sa table et lui demanda s'il ne pourrait pas les mettre à la poste. Il les emporta, et une fois rentré, s'aperçut qu'il avait gardé les lettres sur lui. Il retourna jusqu'à la poste, les tira de sa poche, et avant de les jeter dans la boîte, regarda les adresses. Elles étaient toutes pour des fournisseurs, sauf une, pour Forcheville. Il la tenait dans sa main. Il se disait, si je voyais ce qu'il y a dedans, je saurais comment elle l'appelle, comment elle lui parle, s'il y a quelque chose entre eux. Peut-être même qu'en ne la regardant pas, je commets une indélicatesse à l'égard d'Odette, car c'est la seule manière de me délivrer d'un soupçon peut-être calomnieux pour elle, destiné en tout cas à la faire souffrir et que rien ne pourrait plus détruire, une fois la lettre partie. Il rentra chez lui en quittant la poste, mais il avait gardé sur lui cette dernière lettre, il alluma une bougie et en approcha l'enveloppe qu'il n'avait pas osé ouvrir. D'abord, il ne put rien lire, mais l'enveloppe était mince, et en la faisant adhérer à la carte dure qui y était incluse, il put à travers sa transparence lire les derniers mots. C'était une formule finale très froide. Si au lieu que ce fut lui qui regarda une lettre adressée à Forcheville, c'eût été Forcheville qui eût lu une lettre adressée à Swann, il aurait pu voir des mots autrement tendres. Il maintint immobile la carte qui dansait dans l'enveloppe plus grande qu'elle, puis, la faisant glisser avec le pouce, on amena successivement les différentes lignes sous la partie de l'enveloppe qui n'était pas doublée, la seule à travers laquelle on pouvait lire. Malgré cela, il ne distinguait pas bien. D'ailleurs, cela ne faisait rien, car il en avait assez vu pour se rendre compte qu'il s'agissait d'un petit événement sans importance et qui ne touchait nullement à des relations amoureuses. C'était quelque chose qui se rapportait à un oncle d'Odette. Swann avait bien lu le commencement de la ligne. « J'ai eu raison. » Mais ne comprenait pas ce qu'Odette avait eu raison de faire quand soudain, un mot qu'il n'avait pas pu déchiffrer d'abord apparut et éclaira le sens de la phrase tout entière. « J'ai eu raison d'ouvrir. C'était mon oncle. » D'ouvrir ? Alors Forcheville était là tantôt quand Swann avait sonné et elle l'avait fait partir. D'où le bruit qu'il avait entendu. Alors il lut toute la lettre. À la fin, elle s'excusait d'avoir agi aussi sans façon avec lui et lui disait qu'il avait oublié ses cigarettes chez elle. La même phrase qu'elle avait écrite à Swann une des premières fois qu'il était venu. Mais pour Swann, elle avait ajouté « Puissiez-vous y avoir laissé votre cœur, je ne vous aurais pas laissé le reprendre. » Pour Forcheville, rien de tel. Aucune allusion qui pût faire supposer une intrigue entre eux. À vrai dire d'ailleurs, Forcheville était en tout ceci plus trompé que lui. Puisque Odette lui écrivait pour lui faire croire que le visiteur était son oncle. En somme, c'était lui, Swann, l'homme à qui elle attachait de l'importance, et pour qui elle avait congédié l'autre. Et pourtant, s'il n'y avait rien entre Odette et Forcheville, pourquoi n'avoir pas ouvert tout de suite? Pourquoi avoir dit « J'ai bien fait d'ouvrir, c'était mon oncle » si elle ne faisait rien de mal à ce moment-là? Comment Forcheville pourrait-il même s'expliquer qu'elle eût pu ne pas ouvrir? Swann restait là, désolé, confus, et pourtant heureux, devant cette enveloppe qu'Odette lui avait remise sans crainte. Tant était absolue la confiance qu'elle avait en sa délicatesse. Mais à travers le vitrage transparent de laquelle se dévoilait à lui, avec le secret d'un incident qu'il n'aurait jamais cru possible de connaître, un peu de la vie d'Odette, comme dans une étroite section lumineuse pratiquée à même l'inconnu. Puis sa jalousie s'en réjouissait, comme si cette jalousie eût une vitalité indépendante, égoïste, vorace de tout ce qui la nourrissait, fût-ce aux dépens de lui-même. Maintenant elle avait un aliment, et Swann allait pouvoir commencer à s'inquiéter chaque jour des visites qu'Odette avait reçues vers 5 heures, à chercher à apprendre où se trouvait Forcheville à cette heure-là. Car la tendresse de Swann continuait à garder le même caractère qui lui avait imprimé dès le début à la fois l'ignorance où il était de l'emploi des journées d'Odette et la paresse cérébrale qui l'empêchait de suppléer à l'ignorance par l'imagination. Il ne fut pas jaloux d'abord de toute la vie d'Odette, mais des seuls moments où une circonstance, peut-être mal interprétée, l'avait amené à supposer qu'Odette avait pu le tromper. Sa jalousie comme une pieuvre qui jette une première, puis une seconde, puis une troisième amarre, s'attacha solidement à ce moment de 5 heures du soir, puis à un autre, puis à un autre encore. Mais Swann ne savait pas inventer ses souffrances. Elle n'était que le souvenir, la perpétuation d'une souffrance qui lui était venue du dehors, mais là, tout lui en apportait. Il voulut éloigner Odette de Forcheville, l'emmener quelques jours dans le Midi. Mais il croyait qu'elle était désirée par tous les hommes qui se trouvaient dans l'hôtel, et qu'elle-même les désirait. Aussi, lui qui, jadis en voyage, recherchait les gens nouveaux, les assemblées nombreuses, on le voyait sauvage, fuyant la société des hommes, comme si elle l'eût cruellement blessé. Et comment n'aurait-il pas été misanthrope quand dans tout homme il voyait un amant possible pour Odette? Et ainsi sa jalousie, plus encore que n'avait fait le goût voluptueux et riant qu'il avait eu d'abord pour Odette, altérait le caractère de Swann et changeait du tout au tout aux yeux des autres l'aspect même des signes extérieurs par lesquels ce caractère se manifestait.
Tu étais fort en temps normal, drôle d'animal, et tu as mal d'aimer si fort, d'aimer si mal, alors tu souffres. Et c'est le gouffre. Tu marches dans la ville d'un pas de zombie, Robinson dans son île, le cœur estourbi à cause de cette baume qui t'a frappé sec. Tu ressembles à un fantôme, un oiseau sans bec. Tu étais fort en temps normal, drôle d'animal, et tu as mal d'aimer si fort, d'aimer si mal, alors tu souffres, et c'est le gouffre. Les autos qui klaxonnent, tu ne les entends pas, tu ne reconnais personne, seul dans ton combat. À cause de cette fille qui t'a fait craquer, pour mieux faucher tes billes, pour mieux te croquer, la jalousie travaille et tu broies du noir. Tant si question t'assaille, tu voudrais savoir, savoir si cette femme gourmande et jolie, pour un autre s'enflamme dans un autre lit. Tu étais fort en temps normal, drôle d'animal, et tu as mal d'aimer si fort, d'aimer si mal, alors tu souffres, et c'est le gouffre. Tu te sens peu de choses, toi qui brillais tant, collectionnant les roses de tous les printemps. Tu ressembles à un fantôme, un oiseau sans bec, à cause de cette baume qui t'a frappé sec. Tu étais fort en temps normal, drôle d'animal, et tu as mal. Tu étais fort en temps normal, drôle d'animal, et tu as mal.
Quand Odette cesserait d'être pour lui une créature toujours absente, regrettée, imaginaire, quand le sentiment qu'il aurait pour elle ne serait plus ce même trouble mystérieux que lui causait la phrase de la sonate, mais de l'affection, de la reconnaissance, quand s'établiraient entre eux des rapports normaux qui mettraient fin à sa folie et à sa tristesse, alors sans doute les actes de la vie d'Odette lui paraîtraient peu intéressants en eux-mêmes, comme il avait déjà eu plusieurs fois le soupçon qu'ils étaient. Par exemple, le jour où il avait lu à travers l'enveloppe la lettre adressée à Forcheville. Considérant son mal avec autant de sagacité que s'il se l'était inoculé pour en faire l'étude, il se disait que, quand il serait guéri, ce que pourrait faire Odette lui serait indifférent. Après ces tranquilles soirées, les soupçons de Swann étaient calmés. Il bénissait Odette et le lendemain, dès le matin, il faisait envoyer chez elle les plus beaux bijoux parce que ses bontés de la veille avaient excité ou sa gratitude ou le désir de les voir se renouveler ou un paroxysme d'amour qui avait besoin de se dépenser. Mais du sein de son état morbide, à vrai dire, il redoutait à l'égal de la mort une telle guérison qui eût été en effet la mort de tout ce qu'il était actuellement.
Comme un silence vibrant d'une absolue présence, l'absence, la douceur dans l'absence et la mélancolie panachée de confiance et de tendre folie, la voix qui tinte encore dans la chambre déserte, ce frisson dans le corps, cette impression de perte. Cette impression de perte, comme un silence vibrant d'une absolue présence, l'absence, la langueur dans l'absence, et quand le temps s'étire, qu'on se meurt d'impatience, guetté par le délire, c'est quand on devient bête. Bête à manger du foin, incapable de fête, calfeutré dans son coin. Calfeutré dans son coin, comme un silence vibrant d'une absolue présence, l'absence. La douleur dans l'absence, c'est la peur qui s'en mêle quand on se met en transe, qu'on se dit que fait-elle, est-elle encore à moi, là-bas dans cet ailleurs, ou déjà sous la loi d'un plus beau, d'un meilleur, d'un plus beau, d'un meilleur. Le bonheur dans l'absence, c'est l'instant du retour, le fruit de l'espérance, le regain de l'amour. C'est quand on s'y prépare, qu'on nettoie la maison, c'est le meuble qu'on pare d'un bouquet de saison. D'un bouquet de saison, comme un silence vibrant d'une absolue présence, l'absence. L'absence.
Ainsi se termine cette émission de la série que nous consacrons à Marcel Proust. Dans celle-ci, autour du thème « Jalousie et mensonge », vous avez pu entendre un certain nombre d'intermèdes musicaux. Il s'agissait d'une part d'extraits d'une pièce de et interprétée par Alan Silva, Danse pour le 21e siècle, et d'autre part, de chansons d'André Bonhomme. Je suis jaloux, le cœur brûlé, tu étais fort, l'absence. Ces émissions sont réalisées avec la participation à la diction, mais aussi au choix des thèmes et extraits retenus d'André Bonhomme, avec qui donc nous co-réalisons ces émissions qui nous tiennent fort à cœur à tous les deux. André Bonhomme, que je remercie chaleureusement. Thank you.
Thank you.